Mardi de la seconde semaine de Carême. Station à Sainte-Balbine. Vous n'avez qu'un Père qui est dans le ciel. Vous n'avez qu'un docteur, le Christ. Vous êtes tous frères. Aujourd'hui, nous célébrons une messe qui n'est ni une messe de catéchumène, ni une messe de pénitent. Elle est d'un temps où le catéchuménat n'était plus une institution vivante, et où la pénitence ne dominait pas tout le carême, du temps de la floraison de la vie liturgique de communauté, époque de Saint Grégoire le Grand, vers 600. Aussi, la messe s'adresse à la communauté des fidèles qui veut se purifier et tendre à la perfection. Pour comprendre cette messe, je me représente une antique mosaïque romaine dans l'abside. Au milieu, on voit le Seigneur dans sa majesté, assis sur la cathèdre, tenant à la main un parchemin. Vous n'avez qu'un docteur. Au-dessus de lui, la main de Dieu. Vous n'avez qu'un père. Au-dessous, un troupeau de brebis qui se hâte vers le bon pasteur. Vous êtes tous frères. À côté du Seigneur se tient la sainte de station, sainte Balbine, la Vierge sage qui porte à la main sa lampe à huile. C'est sans doute cette représentation qui a déterminé le texte de la messe. L'église de station était de fait consacrée autrefois au divin Rédempteur, mais elle prit le nom de sa fondatrice, sainte Balbine. Deux thèmes circulent à travers cette messe, le thème de la vie du Christ et le thème de la station. Le thème de la vie du Christ. Les antiennes du lever et du coucher du soleil sont les suivantes. Vous n'avez qu'un docteur qui est dans le ciel, le Christ le Seigneur, antienne à Benedictus. Quant à vous, vous êtes tous frères et n'appelez personne père sur la terre, car vous n'avez qu'un père qui est dans le ciel. Ne vous faites pas appeler docteur, car vous n'avez qu'un docteur, le Christ, antienne à Magnificat. Dans ces deux antiennes, la liturgie a, en trois pensées, caractérisé toute la vie avec l'Église. Dieu notre Père, le Christ notre Docteur, nous tous frères entre nous. Le thème de la station. Au sujet de la sainte de station, sainte Balbine, le martyrologe dit le 31 mars. À Rome, la sainte Vierge Balbine, elle était fille du saint martyr Quirinus et avait reçu le baptême des mains du pape Alexandre. Après sa mort, elle fut ensevelie sur la voie Appienne, à côté de son père. Certainement, sainte Balbine fut une de ces vierges charitables de l'ancienne Église qui consacraient toute leur vie au service du prochain. Peut-être était-ce une diaconesse qui visitait les martyrs dans leur prison, prenait soin de l'Église et des prêtres, secourait les pauvres, soignait les malades. L'église de station est un très ancien sanctuaire, et c'est, à proprement parler, un antique atrium romain très bien conservé. Au-dessous du maître-autel qui est isolé, on conserve, dans une urne antique, les cendres de sainte Balbine qui furent apportées dans cette église en même temps que les reliques de son père, saint Quirinus. C'est là que se rend aujourd'hui la famille chrétienne de l'Occident pour la célébration de la messe. L'Église a élevé un monument à la sainte de station dans la personne de la veuve de Sarepta. La messe. Tibi dixit. Mon cœur vous a dit, mes yeux vous ont cherché, votre visage, Seigneur, je le chercherai. L'introïte est un beau cantique d'entrée. Dans des sentiments de désir ardent, la procession des chrétiens s'approche du sanctuaire où rayonne la face du Seigneur. Je cherche votre visage. Le Seigneur est ma lumière. Ne détournez pas de moi votre visage. Je cherche votre visage, les fidèles. Le Seigneur est ma lumière, les catéchumènes. Ne détournez pas de moi votre visage, les pénitents. Le but de la recherche est Pâques. C'est ce que chante le psaume en de beaux accents. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, pouvoir habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. pouvoir goûter l'amabilité du Seigneur et visiter son sanctuaire. Avec quelle ardeur les pénitents et les catéchumènes devaient réciter cette prière. La lecture. La leçon n'est pas aujourd'hui un sermon de pénitence, mais une histoire édifiante qui nous présente une aimable figure de femme, la veuve de Sarepta. Cette veuve obéit à la première parole, sacrifie son amour maternel et partage son repas avec un étranger. C'est un exemple d'obéissance dans la foi. Cette histoire comporte un enseignement. L'aumône apporte la bénédiction. Notre vase d'huile et notre mesure de farine ne tariront jamais si nous ne laissons pas notre prochain dans le besoin. La leçon veut donc nous recommander l'aumône de carême, mais aussi la miséricorde et l'amour du prochain. Le graduel. Iacta cogitatum tuum in domino. Jette ta pensée dans le Seigneur et lui-même te nourrira. Lorsque je criais vers le Seigneur, il a exaucé ma voix contre ceux qui m'entourent pour me perdre. Le graduel est un écho de la leçon. Dieu prend soin de toi. N'aie pas de soucis anxieux. Il te nourrira. Cette nourriture s'entend dans un double sens, du pain temporel et du pain spirituel. L'Évangile. L'Évangile n'a aucune relation avec la lecture. Le Seigneur se présente encore devant nous, il est en lutte avec les ténèbres, thème de la Passion. Ce passage est tiré du grand discours de malédiction contre les pharisiens. Après ce discours, le Christ quitte le temple pour ne jamais y rentrer. Dans ce discours, il nous présente deux images opposées, les pharisiens et les disciples. Les pharisiens disent et ne font pas ce qu'ils disent. Il en est tout autrement des disciples. Ils doivent être des serviteurs. Le Christ est notre docteur, Dieu est notre Père. Le chemin de la gloire est celui-ci, celui qui s'abaisse. Le Christ nous précède dans la souffrance, l'humiliation, l'obéissance. Suivons-le, soyons ses disciples. Sous l'impression de la grave prédication du Seigneur, nous présenterons à l'autel, au moment de l'offertoire, non pas une offrande, mais notre cœur contrit et humilié. Il est rare de voir à l'offertoire le thème de la pénitence, le psaume 50, ressortir d'une manière aussi directe. La communion. Narrabo omnia, je raconterai toutes vos merveilles. En vous, je me réjouirai et me livrerai à l'allégresse. Je chanterai votre nom au Très-Haut. À la communion, nous chantons un cantique fervent d'action de grâce pour la victoire de la rédemption et nous demandons à Dieu de garder toujours les commandements. Comparons l'introïte et la communion. Ce que nous cherchons et implorons dans l'introïte, « Je chercherai votre visage », est accompli dans la communion. Nous voyons maintenant la face du Christ. Dans l'oraison et la post-communion, nous demandons l'accomplissement des commandements du docteur. Il y a aussi, dans la messe d'aujourd'hui, un encouragement et une joie pour les catéchumènes. Les plus beaux et les plus héroïques exemples de foi nous sont offerts par le monde païen, la veuve, la cananienne, le centurion. Le psaume 9. Le Christ est vainqueur. Le psaume 9 réunit deux cantiques différents. Le premier est un cantique d'action de grâce et de victoire, l'autre une lamentation et une prière. Ces deux cantiques sont souvent distingués dans la numérotation. La communion de notre messe indique que nous ne devons envisager ici que la première partie. Je vous louerai, Seigneur, de tout mon cœur, et j'annoncerai toutes vos merveilles. Je me réjouirai et je tressaillerai en vous, et je chanterai votre nom, ô Très-Haut. Vous avez renversé mes ennemis, ils trébuchent et tombent devant votre face. Vous avez fait triompher mon droit et ma cause, et vous vous êtes assis sur le trône en juste juge. Vous avez châtié les nations, vous avez fait périr l'impie, vous avez effacé leur nom même pour tous les temps. L'épée des ennemis est tombée pour toujours, vous avez mis leur ville en ruine, et jusqu'à leur souvenir qui a disparu. Mais Dieu siège à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge la terre avec justice. Il dirige les peuples avec droiture. Le Seigneur est un refuge pour les pauvres. Il aide au temps de la détresse. C'est pourquoi doivent espérer fermement en vous ceux qui connaissent votre nom, car vous n'abandonnez jamais ceux qui vous cherchent, Seigneur. Louez le Seigneur qui a son trône dans Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits, car lui qui venge le sang versé se souvient des pauvres, il n'oublie pas leurs cris. C'est pourquoi le Seigneur a eu pitié de moi, il a vu la détresse où m'ont réduit mes ennemis, il m'a retiré des portes de la mort, afin que je puisse annoncer vos louanges aux portes de Sion. Je tressaille de joie à cause de votre salut. Les nations sont tombées dans la fosse qu'elles ont creusée. Le lacet qu'elles avaient placé en cachette a entouré leurs propres pieds. Ainsi le Seigneur s'est manifesté comme juge. Dans l'œuvre de ses propres mains s'est enlacé l'impie. Tous les impies descendront aux enfers et tous les peuples qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est pas toujours oublié, ni l'espérance des pauvres éternellement déçue. Levez-vous, Seigneur, que l'homme ne triomphe pas. Entrez en jugement avec les peuples, établissez sur eux quelqu'un qui les dompte, afin que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Application liturgique. Dans notre prière chrétienne, nous séparons le psaume de ses circonstances historiques pour en faire une prière d'action de grâce dans laquelle nous remercions Dieu des victoires remportées et du secours accordé dans son royaume. En somme, cette victoire historique n'est qu'une phase du grand combat et de la victoire de Dieu sur ses ennemis. Nous entendons donc le combat et la victoire dans le sens le plus large. Le champ de bataille est la vaste terre et surtout le cœur de tout homme. Ce combat durera jusqu'à la fin du monde. Le vainqueur est Jésus-Christ. Il remporte ses victoires dans le monde, dans l'Église, dans les âmes.